Ouais, formidable. Je ne sais pas si ça va être formidable, le résultat ou ce que va proposer le gouvernement du Québec dans son budget là, qu'il va présenter cet après-midi. En tout cas, l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec a demandé le 4 mars dernier une aide d'urgence dans ce budget. Ces ressources peinent de plus en plus à joindre les deux bouts en raison de l'augmentation de leurs coûts d'opération depuis la pandémie, bien évidemment avec ces taux d'inflation aussi qui ont été assez épouvantable, et cela dans le but de maintenir la qualité des services offerts aux résidents. On reçoit le président du conseil d'administration de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec, Carl Veilleux. Bienvenue à l'émission.
Bon matin.
Oui, ben, d'abord, c'est quoi la mission de cette association que vous présidez?
Mais en fait, l'Association des ressources intermédiaires en hébergement du Québec regroupe l'ensemble
Oui.
Des ressources intermédiaires qui sont en opération au Québec. Donc, il y a plus de 1118, je pense, ressources intermédiaires au Québec qui hébergent plus de 19 000 personnes vulnérables.
OK.
Donc, quand on dit personnes vulnérables, on va parler d'une clientèle qui peut être aux prises avec des problèmes de déficience intellectuelle, santé mentale, déficience physique et ce qu'on appelle le SAPA, c'est les personnes âgées en perte d'autonomie.
Juste pour que je sois clair, une ressource intermédiaire, c'est quoi?
Oui. Une ressource intermédiaire, c'est un milieu d'hébergement. Imaginez que vous avez un proche, ça peut être un grand-parent, un enfant qui est en problème, soit de santé mentale ou une personne âgée en perte d'autonomie. Puis qui est plus en mesure de demeurer à la maison. Donc, on a une intensité de service qui nécessite une forme d'hébergement. Donc, la personne peut être placée en ressources intermédiaires. Elle va être aidée sur une base quotidienne au niveau de toutes les activités de la vie quotidienne. Donc, se lever, s'habiller, nourrir, la prise de médication, ces genres de services qui vont être offerts en ressources intermédiaires. Et la particularité, c'est que les services sont 100% subventionnés par le ministère de la Santé. Donc, les ressources intermédiaires sont à contrat exclusivement avec le ministère de la Santé, puis l'usager n'a pas à payer de sa poche directement la ressource intermédiaire.
D'accord. Alors, c'est quoi la situation là, depuis la pandémie là, que vous constatez là, dans vos maisons ou dans vos ressources là?
Bien, en fait, c'est pas une situation qui n'est pas unique à nous, là. On le voit beaucoup, c'est une combinaison de facteurs. Post-pandémie, là, il y a eu l'inflation qui a été fort aiguë. Qui est venu impacter à beaucoup d'égards la facture d'épicerie, tous les services, les coûts d'assurance également au niveau des ressources intermédiaires qui ont explosé parce que suite à la pandémie, les assureurs se sont rendus compte qu'il y avait un risque à héberger une clientèle vulnérable. Donc, les factures d'assurance ont explosé là, du double au triple, au quadruple, dépendamment là, des endroits. Ensuite de ça, il y a toute la notion de. Ben, en fait, c'est des bâtiments. Donc, c'est des bâtiments qui souvent ben, sont sous une hypothèque. Donc, quand on contrôle pas toujours le contexte dans lequel on arrive en renouvellement hypothécaire. Donc, il y a beaucoup de ressources qui arrivent en renouvellement hypothécaire. Ils vont passer d'un taux de 2 points quelque chose à du 7 quelque chose, là, parce que dans le commercial, c'est un petit peu plus haut que le résidentiel. Donc, ça vient changer complètement tout le portrait financier de la ressource. Puis là, ben, il y a des difficultés qui commencent à s'installer.
Est-ce qu'il y a des ressources qui ont dû fermer leurs portes jusqu'à maintenant?
On a très peu de ressources qui ont fermé. En fait, il y a eu le jardin botanique là, qui a
Oui.
fait les nouvelles. Là. Il y avait une ressource intermédiaire qui était combinée avec une RPA. Mais il y a de plus en plus de ressources qui lèvent là, le signal d'alarme. Pas plus tard qu'hier, j'ai un membre qui m'a contacté pour me dire que lui se préparait à envoyer une lettre à l'établissement pour indiquer qu'il était dans l'obligation de fermer son contrat. Donc, il va y avoir une discussion avec les établissements, mais ça s'en irait vers une fermeture s'il n'y a pas de support financier qui est octroyé.
Parce que les revenus, bon, on s'entend, là, les services sont payés par l'État,
Oui.
mais les revenus là, pour gérer la bâtisse et tout ça vient des loyers que les gens vont payer. On ne peut pas leur demander de payer si cher que ça. Non, c'est pas
Non, en
non.
fait, ce que vous décrivez, c'est un petit peu comment ça fonctionne en RPA,
OK.
où le locataire ou l'usager va payer directement la ressource. La ressource intermédiaire ne transige financièrement en aucune façon avec l'usager.
OK.
C'est l'établissement, donc le système de santé, qui va payer les frais sous une forme d'un perdième.
OK.
Donc, un perdième moyen en ressource intermédiaire, donne une idée de l'ordre de grandeur, c'est environ 140 $ par jour qui est payé à la ressource pour l'ensemble des services. Ça inclut l'hébergement, la nourriture, les activités à la vie quotidienne, les préposés aux bénéficiaires, là, tout le personnel. Donc, tous ces services-là doivent être sont financés à même le financement qui est donné par le ministère.
140 $ pour tous ces services-là. On s'entend qu'un hôtel, ça coûte 200 puis 300 $ la nuit, là.
Je pense que vous faites un bon parallèle.
Ouais.
Puis, tu sais, on peut regarder ce qui est payé dans d'autres modèles d'hébergement. Puis, ça excède souvent ce montant-là.
Donc, le 4 mars, l'association a sorti un communiqué de presse qui
Mais.
demandait au gouvernement du Québec une aide d'urgence. Parlez-nous un peu de ces demandes dont vous avez besoin.
Ben, en fait, il y a deux demandes, là. La première, c'est vraiment au niveau des coûts d'opération, là. Je pense qu'on vient en discuter ensemble. Il y a une explosion des coûts d'opération. Puis nous, en fait, l'Association des ressources intermédiaires est régie par une entente. Cette entente-là, c'est une entente de 5 ans qui arrive à terme l'année prochaine. Ça a été renouvelé dans un contexte pandémique. Puis suite à ça, il y a eu une explosion des coûts d'opération, puis l'entente n'a pas suivi. Donc, il y a vraiment, je vous en parlais tantôt, il y a une détresse au niveau de nos membres qui ont besoin d'oxygène pour continuer de fonctionner, parce que considérant qu'ils ne peuvent pas augmenter les loyers ou toute autre forme de cotisation de l'usager, puis ça vient juste du ministère, bien, une difficulté au niveau du financement se transige inévitablement par une difficulté à donner des services de qualité.
Mm.
OK. Donc, la première demande, c'est une demande d'une prime, une prime de 20 $ par jour par usager pour ajuster au coût du marché. Ça, c'est une demande qu'on évalue à environ 139 millions de $ pour l'ensemble des ressources intermédiaires à travers le Québec.
Et ça vous aiderait là, à garder, vous garder à flot là, pour un bout de temps, là?
Ben, jusqu'à la réouverture de notre prochaine entente l'année dernière, on se rassoira et on en discutera, mais on ne peut pas attendre encore un an et quelque chose, plus le temps de la négociation. Vous savez, des fois, ça ne se fait pas en claquant des doigts, de négociation.
Non, on l'a vu ça avant les fêtes, oui. Ça devait se régler aux fêtes. En fait, la FIC n'a pas encore réglé.
Non, c'est ça. Puis, des fois, prendre le temps de discuter, c'est bon, là. Donc, on a besoin d'oxygène dans le réseau. Ça, c'est inévitable.
Ça, c'est votre première demande. L'autre demande?
L'autre demande, c'est au niveau des coûts immobiliers. En fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que pour ouvrir une ressource intermédiaire, on fonctionne par appel d'offres. Donc, un établissement peut avoir besoin d'ouvrir un certain nombre de lits sur son territoire, va aller en appel d'offres, puis là, ben, on va aller sélectionner des soumissionnaires qui sont conformes, là, la meilleure proposition. En ce moment, quand les établissements vont en appel d'offres, il n'y a plus de dépôt. Il n'y a plus de soumissionnaires parce que le per diem immobilier qui est octroyé est insuffisant. Je vous donne là, juste quelques chiffres. Là. En ce moment, là, une ressource intermédiaire, le maximum qu'on va financer au niveau des coûts de construction, c'est 211 000 la porte, donc par unité.
Ouf.
211 000. Là, si on se met à comparer, là, on construit en présentement des maisons des aînés à un coût de plus de 1 million de $ la porte.
Ouais.
On construit du logement social à 300 ou 400 000 la porte. Les ressources intermédiaires, on est capable, parce qu'on est dans le privé, on est capable de le faire moins cher, mais on a besoin au minimum de 300 000 la porte, puis c'est ce qu'on demande. Donc, on demande une prime additionnelle de 10 $ pour débloquer la construction des ressources intermédiaires en hébergement, parce que ça, c'est au cœur du problème. Si on ne développe pas des places, bien, il y a un engorgement qui se crée, puis bien, les services ne peuvent pas être rendus. Puis en ce moment, ce qu'on observe, c'est que les établissements, parce qu'il n'y a personne qui répond aux appels d'offres, prennent des moyens contournés de développer des places dans un cadre qui n'est pas le cadre de ressources intermédiaires parce qu'ils veulent juste développer des places, puis ils vont le faire à un coût plus élevé en contournant tout un système qui est mis en place.
Wow, d'accord. Ça non plus, c'est pas idéal comme solution. Là.
Ah, on s'entend que c'est pas idéal, non.
Donc, il ne reste pas beaucoup de temps, mais le gouvernement vient de nous... En fait, on vient d'avoir une entrevue avec notre économiste Michel Poitevin. Ben, le gouvernement n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, puis tout le monde demande un peu plus d'argent. Êtes-vous optimiste que quelque chose va se faire?
Ben, en fait, on est optimiste parce qu'on n'a pas le choix de l'être. En fait, on est tous pour la rigueur, dans le sens de rigoureux, là, pas dans le sens d'austérité. Cela dit, on présente nos demandes comme étant une forme d'économie également, parce que si on développe des ressources intermédiaires dans le cadre défini par la loi, bien, on arrive avec un modèle d'hébergement qui coûte moins cher que qui se développe en ce moment en contournant de toutes sortes de façons le modèle, là, parce que les appels d'offres trouvent preneur. Donc, il y a là, selon nous, puis on en est convaincu, une forme d'économie pour le ministère là, d'aller dans cette voie-là, qui est la voie des ressources intermédiaires.
Rapidement, là, si rien se fait, si on ne vous accorde pas ce que vous demandez dans ce présent budget, il va arriver quoi? C'est quoi les conséquences?
Ben, en fait, on va être à l'arrêt complet encore, parce que ça fait déjà 2 ans qu'il n'y a pas de nouvelles ressources intermédiaires qui se sont construites. Ça fait que ça va se poursuivre. Puis après ça, ben, on va se ramasser un petit peu dans le même contexte que les RPA. Il va y avoir des fermetures, on va gérer de l'urgence. On est fort là-dessus, des fois au Québec, gérer des urgences. Fait que là, puis peut-être qu'on va avoir une oreille différente, mais je ne le souhaite pas. Là. Délocaliser des personnes âgées, des personnes vulnérables, c'est jamais la solution qui est souhaitée. Donc, on se croise les doigts, on a eu des bonnes rencontres avec le ministère, puis on espère vraiment qu'il va avoir quelque chose pour les ressources intermédiaires dans le budget cet après-midi.
Bien, Carl Veilleux, président du conseil d'administration de l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, Michel. Merci.